Bienvenue dans XP, le podcast. XP est une émission sur YouTube qui traite des RPG des années 2000, de leur histoire, de leur développement et de ce qu'ils valent aujourd'hui. C'est un panorama de toute une époque de l'histoire du RPG. Vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en podcast de l'émission, comme ça, XP vous accompagnera dans votre quotidien, dans le train ou au travail. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir XP et mon travail de rétrospective qui me demande beaucoup de temps d'écriture, de recherche et de montage en me soutenant sur Patreon. Tous les liens sont en description. Sur ce, bonne écoute à tous et à toutes. S'il y a bien une chose que je ne regrette pas dans mon rapport aux jeux vidéo, c'est cette époque où la seule solution dont je disposais pour choisir mes jeux dans un magasin d'occasion était de me fier à la boîte du jeu. Mon ordinateur familial n'étant pas le plus performant de sa génération, et ne disposant jusqu'en 2014 que d'une vieille PlayStation 2,
oh là là, parler de la PlayStation 2...
Je me suis tourné vers des jeux de la génération précédente qui savaient titiller ma passion pour le jeu de rôle. C'est ainsi que j'ai pu toucher à un nombre incommensurable de purs jeux vidéoludiques méconnus vendus 3€, composés de pâles copies de Baldur's Gate, d'enfants difformes de Diablo 2, et de mondes ouverts d'Europe de l'Est qui s'inspiraient un peu trop de la richesse exotique du quotidien de ses concepteurs. Mais comme disait Nathalie Kosciusko-Morizet,
quand on est face au pire choix, on évite le choix du pire.
À l'écriture, c'est pas facile.
Si bien qu'à force, on apprend à les choisir et on finit, même sans internet, à retracer la filiation de chacun et à dénicher des pépites. C'est ainsi qu'à la recherche d'un RPG, en farfouillant les rayons bleutés des jeux PlayStation 2 d'occasion, mon regard tombait sur une boîte arborant une guerrière elfe noire sur un fond bleu uni, orné du titre d'une des licences les plus légendaires du RPG occidental. Pensant me procurer pour une poignée d'euros le portage du titre mythique de BioWare, jouable en coopération, je me précipite chez un ami insérer le disque dans sa PS2. Ça n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais l'histoire vaut son pesant d'or. Bienvenue dans XP. L'histoire commence dans les locaux de l'éditeur de jeux vidéo Interplay. Interplay, c'est alors, début 2000, un éditeur mythique possédant sous son aile une multitude de studios aux licences florissantes, notamment dans le domaine du RPG occidental. Il bénéficie du savoir-faire de Black Isle Studios, à l'origine des jeux Fallout, Planescape Torment et Icewind Dale, ainsi qu'un robuste studio canadien tout juste couronné du succès planétaire de leur RPG se déroulant dans les royaumes oubliés de Donjons et Dragons, BioWare et la série des Baldur's Gate. Alors que tout allait pour le mieux pour Interplay, c'est en juin de cette première année du nouveau millénaire qu'un séisme se produisit. Blizzard Entertainment vend le premier jour de la sortie de Diablo 2 pas moins de 2 millions de copies. Tout développeur est alors en extase devant ce bijou vidéoludique, des cinématiques tout bonnement futuristes, un système de compétences innovant inspiré des jeux de stratégie, une rejouabilité quasi infinie et une accessibilité sans égale comparée à la concurrence qui se multipliait alors sur PC. Autant dire qu'il ne faisait aucun doute dans la tête des commerciaux d'Interplay. Immédiatement, on convoque autour d'une table Black Isle Studios et un autre studio jusqu'ici seulement habitué aux jeux de course, et alors en train de développer un Diablo-like en 3D. C'est Snowblind Studios. La mission donnée par Interplay aux deux sociétés est simple, porter Baldur's Gate sur la toute jeune PlayStation 2 de Sony et reproduire le succès de Blizzard. La fusion de l'excellence narrative de Black Isle et la connaissance du hardware console de Snowblind pousseront les deux studios à accoucher d'une petite merveille de software, le Snowblind Engine. Il s'agit d'une ingénieuse adaptation du Infinity Engine créé par BioWare pour la version PC de Baldur's Gate, pour lui permettre de tirer parti du bijou technologique qu'est alors la PlayStation 2. Méga texturing, moteur physique irréprochable, le bébé est montré à l'éditeur, et tout le monde est confiant. Black Isle se concentre alors sur l'aspect narratif et sonore du titre, tandis que toute la partie technique est déléguée à Snowblind. Snowblind, composé d'une dizaine d'employés, a le souci du détail, peut-être un peu trop pour un jeu en 480p, rappelons-le. Dans une interview, un développeur se vante d'avoir modélisé un personnage de 5000 polygones. 5000!
Je crois que c'est beaucoup.
Par contre, les deux studios se heurtent à un gros problème. Et le gros problème, C'est ça.
Donjon Dragon.
Ces trois bouquins infernaux remplis de tableaux, de classes d'armure et de 8 des 12 plus 4 plus modificateurs d'intelligence dégâts de poison. Faire un action RPG jouable à la DualShock 2 avec le système de Donjon et Dragon, c'est comme essayer de faire un château de cartes avec des moufles. Le souci, c'est que Wizards of the Coast est propriétaire de l'univers de la licence, les Royaumes Oubliés, et il n'avait pas vraiment signé pour un beat'em all aux personnages dont la motivation est de commettre un génocide de casse en bois et de cruches en terre cuite. Malgré tout, le projet est tout de même validé, tant que le bestiaire est respecté, et plutôt qu'un simple portage du titre de BioWare, le jeu prendra le sous-titre Dark Alliance, leur laissant une pleine liberté créative. On insère le disque dans la bête et on nous laisse le choix. Un guerrier nain, un rôdeur humain ou une mage elfe. On commence au niveau 1 comme dératiseur professionnel, on marave tout ce qui bouge, on se transforme en poubelle ambulante et on finit par pourfendre du général de guerre corrompu. Encore aujourd'hui, le jeu est hyper fun à faire en coopération. La mécanique est solide et pour de la PS2, le jeu est joli et a une vraie identité. Il apporte de nombreuses innovations en termes de action RPG, notamment dans la simplification des builds de personnages possibles. Le scénario ne casse pas trois pattes à un Arakokra, mais il se laisse suivre grâce à une écriture fluide, des décors variés et une musique vraiment chouette. Oh, et vous savez ce que ça veut dire un action RPG localisé en France dans les années 2000 ? Un doublage français absolument délectable.
Belle prise, hein, Karn ?
En effet.
Après une gestation de 18 mois, le jeu sort finalement le 20 janvier 2004, et c'est un carton, 87% sur Metacritic et un accueil dithyrambique de la presse. Il faut dire que, même si ce type d'heroic fantasy marronasse est hégémonique aujourd'hui, les RPG sur console étaient à l'époque habitués à plus de couleurs et d'extravagance nippone. Baldur's Gate Dark Alliance remporte d'ailleurs le prix du jeu de rôle de l'année. Ah, et maintenant, accrochez-vous à votre fauteuil. Après le succès de Dark Alliance, Interplay a mis sur les rails un projet de portage du jeu sur PC. Oui, bon, on a décidé de porter le portage. Et vous savez quel studio a été choisi pour effectuer ? Une petite société polonaise du nom de CD Projekt, les futurs développeurs de The Witcher qui n'effectuent alors que des localisations des jeux BioWare dans le pays de Jean-Paul II. Bon, le projet a finalement été annulé, mais c'est pas un truc de ouf ? Le succès de Dark Alliance a marqué le début de la fin pour Interplay, car oui, c'est là que les choses se gâtent. Pourtant, Baldur's Gate 3 est sur les rails, on prévoit Fallout 3, et bien sûr, la suite de Dark Alliance est en route. Et pour cela, va falloir que je vous parle de Jean-René Fourtout.
Ah mais j'invente rien.
Car oui, Interplay a alors de sacrés déboires judiciaires avec la société Vivendi Universal Publishing. Alors, c'est une affaire compliquée de business, donc je vous la fais courte. Vivendi est le distributeur de Interplay, et ils appartiennent tous les deux à la même filiale, Titus. Interplay accuse Vivendi de leur devoir de l'argent, notamment les recettes du jeu Lionheart. Interplay rompt donc le contrat de distribution, et pour ça, Vivendi les traîne en justice. BioWare sent la douille arriver et quitte le navire pour signer un contrat avec Atari. Tout ce cafouillage a eu pour effet de ruiner Interplay, qui décide, endetté jusqu'au cou, de licencier tout le personnel de Black Isle Studios, personnel qui se réunira plus tard pour former un nouveau studio, Obsidian Entertainment, et qui auront la charge de réaliser le meilleur jeu de tous les temps.
Puisque Black Isle avait fait Dark Alliance 2, on avait les droits du moteur de jeu. Donc on s'est dit qu'on allait l'utiliser pour faire un jeu Star Wars. Je connaissais celui qui gérait LucasArts à l'époque, et je l'ai appelé, et je lui ai dit « Qu'en penses-tu ?» Il a répondu « Très bonne idée, oui », et on a continué d'en parler. Il m'a rappelé et il m'a dit « Que dirais-tu de KOTOR 2 ?» Et j'ai fait « D'accord. »
Bon, je m'égare. Donc la période 2001-2004, c'est le chaos absolu pour Interplay, qui va de procès en perte de recettes. Les annulations s'enchaînent, mais Dark Alliance 2 est maintenu.
Aïe.
Dommage, Snowblind a lui aussi quitté le navire. Il faut dire qu'ils ont été appelés pour produire un spin-off du plus grand et du plus joué de tous les MMORPG.
Ah non, à l'époque c'est EverQuest. Désolé.
En effet, Snowblind garde au chaud son moteur révolutionnaire et le met à profit pour Sony Online Entertainment, pour développer un jeu dans l'univers donc de EverQuest, qui prendra le nom de Champions of Norrath. Ah, et comme si Interplay n'était pas suffisamment dans la merde, Snowblind poursuit Interplay en justice, car ces derniers continuent d'utiliser leur moteur sans leur accord pour développer Fallout Brotherhood of Steel. Vous connaissez pas Brotherhood of Steel ? Mais si, ce spin-off de Fallout sur PS2, vous savez, avec les meilleurs shootings. Le meilleur scénario.
Ces putains de bâtards. Je sais qu'ils sont méchants, mais là...
Les meilleures musiques. Bon, faut dire qu'il a fallu du courage aux développeurs pour ne serait-ce que sortir le jeu. Pour remettre en contexte, Interplay change de direction et balance à son studio interne, qui sont d'ailleurs de vrais fans de Fallout 1 et 2, le Snowblind Engine,
dont je vous rappelle qu'ils n'avaient pas les droits,
et leur demande de faire un jeu d'action dans l'univers de Fallout, Le but est de relever financièrement l'éditeur avec un jeu qui cartonne dans un minimum de temps et un minimum de risques. Alors déjà, faire matcher un moteur de jeu fait pour le combat à l'épée avec un univers rempli de flingues, c'est un sacré défi. Mais en plus, quand le département marketing demande au studio d'intégrer partout des culs, des nibards, des placements de produits et Slipknot, yeah, bah c'est pas de la tarte. Comme le dit 15 ans plus tard en interview le game designer du projet,
ça a été incroyablement douloureux.
Autant vous dire qu'à Interplay, bah c'est pas l'éclate. L'éditeur enchaîne les catastrophes industrielles et les équipes sont sous pression et démoralisées. Dark Alliance 2 reste sur les rails et le bébé est confié à Black Isle, qui faisait encore partie d'Interplay. Le délai de 9 mois de production imposé par l'éditeur,
littéralement 2 fois moins que l'opus précédent,
était si ridicule que les développeurs ont travaillé sur cette suite sans pré-production. Même les développeurs le disent aujourd'hui, tout a été fait à l'arrache. Fort heureusement, le Snowblind Engine est une bête de guerre et est ultra solide, permettant à Black Isle de travailler facilement sur cette suite. Black Isle implémente dans le jeu quelques ajouts issus de leur expérience avec le support PC, comme une carte navigable ou un système d'embranchement de scénario avec deux fins différentes qui ne seront finalement pas implémentées dans le jeu. C'est d'ailleurs ce ressenti qui traverse toute la progression dans Dark Alliance 2. C'est celle d'un jeu bâclé qui ressemble plus à une copie du premier et aux ajouts finalement trop peu nombreux pour justifier un nouveau titre. On a plus affaire à un spin-off ou une extension très plaisante à parcourir, mais dont il manque la patine dont bénéficiait le premier jeu. Le monde ouvert, lui, est plutôt réussi, et on ressent bien la compétence de Black Isle pour produire des RPG débordant du cadre et riches en détails. Un peu trop d'ailleurs. Pas moins de 50 environnements rien que dans ce jeu. Clairement, la quantité a primé sur la qualité. Un problème, disons, récurrent avec les productions Black Isle et les premiers projets de Obsidian. D'ailleurs, Dark Alliance 2 est sans doute des deux jeux de la série celui qui se rapproche le plus des jeux Baldur's Gate sur PC, de par son ambition, son ambiance plus sombre et sa variété de contenu. D'ailleurs, le lead designer de Dark Alliance 2, Dave Maldonado, a fini quelques années plus tard chez Blizzard, filer un coup de main à un certain Diablo 3, et de nombreuses innovations créées pour cet opus seront transférées au mastodonte de Blizzard. L'histoire du développement chaotique de ce jeu, comme celui de Brotherhood of Steel, fait mal au cœur, surtout quand les développeurs parlent de l'impact que ça a eu sur leur vie, comme quoi la culture du crunch est très loin d'être nouvelle dans cette industrie. Black Isle développait à grande vitesse le second opus, tandis qu'Interplay s'écroulait complètement. Les employés faisaient carrément des allers-retours à la banque pour voir si leur paye tombait bien toutes les semaines. Mais aussi, tous les jalons d'Obsidian Entertainment ont été posés à ce moment-là, les têtes de Black Isle sentant le vent tourner et poussant les employés à imaginer le futur. Dark Alliance 2, c'est un véritable baroud d'honneur de Black Isle. Et quand on voit ça et qu'on sait que le dernier quart de jeu n'a été réalisé qu'en quelques semaines, on est à la fois horrifié et impressionné par la capacité de ce studio. Cela n'empêchera pas le jeu d'être un vrai succès, récoltant la note de 78% sur Metacritic. Bon, et Snowblind dans tout ça? Eh bien, ça va plutôt bien en réalité. Quitter Interplay leur a finalement bien réussi. Champions of Norath, coming April 2004. Champions of Norath est donc un spin-off pour PlayStation 2 du MMORPG à succès EverQuest, un mastodonte de l'époque. Le développement semble s'être plutôt bien passé et le résultat s'en fait sentir. C'est un des meilleurs hack and slash de la PS2, qui a laissé des souvenirs impérissables à tous les joueurs et toutes les joueuses qui l'ont découvert, malgré le fait qu'il soit sorti à peine un mois après Dark Alliance 2. En plus des mécaniques de base du premier Dark Alliance, Champions of Norath multiplie les personnages jouables et permet, oh mon dieu, leur personnalisation, et on peut même les nommer. On peut aussi y explorer le monde merveilleux d'EverQuest et ses nombreux environnements.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur argument de vente, mais ça faisait son effet à l'époque.
Et surtout, l'ajout le plus incroyable était le mode multijoueur. Clairement, c'était l'argument qui démarquait Champions of Norath de Dark Alliance 2 à l'époque. On pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs simultanément en réseau et se bagarrer avec ferveur pour se répartir le loot. Mieux, on pouvait amener sa carte mémoire chez son copain pour importer son personnage dans sa partie.
Si c'est pas le futur un peu, ça?
Pour mettre en place cette feature, Snowblind a bénéficié du renfort de développeurs de EverQuest Online Adventures, un MMORPG sur PS2 à la Final Fantasy XI, qui était d'ailleurs impressionné d'à quel point une si petite équipe parvenait à faire un tel jeu.
La plus grosse leçon que j'ai eue en travaillant là-bas, c'était la différence entre travailler dans une équipe de 20 personnes et travailler dans une équipe de 120 personnes. Par exemple, le patron était aussi le réceptionniste, et je me suis rendu à Seattle et j'étais en mode « Vous avez fait tout le jeu, genre absolument tout ?»
Champions of Norath est selon moi un must-play du hack and slash des années 2000. Si la composante RPG n'est pas son point fort, la solidité du gameplay et surtout la qualité de ses graphismes et de ses animations font de ce jeu une pépite de la PS2. Le gameplay ne se résume pas à taper des mobs,
bon, un peu.
Et certains niveaux demandent aux joueurs d'exploser des catapultes, de naviguer sur de la lave, enfin bref, c'est très varié et ça fait plaisir. Et puis ce nombre d'ennemis affichés en même temps avec cette fluidité à toute épreuve, on peut zoomer et dézoomer à l'envi quoi, enfin c'est incroyable. Ah et la qualité de ces menus avec son curseur qui permet de naviguer, quel bonheur. Et vous reprendriez un peu de version française ? Un an plus tard, Snowblind accouche d'une suite, Champions Return to Arms, toujours sur PS2, toujours avec leur moteur, toujours dans l'univers d'EverQuest. Pardon, mais le prix de la boîte ? Le joueur peut incarner des races plus emblématiques de l'univers d'EverQuest, comme les Vanshir ou les Iskar, même si je reste déçu qu'on puisse pas jouer les Froglocks. La trame narrative du jeu vous invite à plonger à travers de nombreux plans. Des plans comme si l'on pleuvait. Plan de l'eau, plan du courage, plan de la maladie. Autant vous dire que c'est long, ça se répète et c'est franchement pas inspiré. Le jeu permet également d'importer son personnage de Champions of Norrath directement dans la suite, et ainsi commencer avec un personnage beaucoup trop puissant, mais c'est assez jouissif, donc pas de problème. Puis le jeu est suffisamment dur comme ça. Le jeu veut également améliorer sa composante narrative en proposant deux fins différentes en fonction de l'alignement de votre personnage. Ça changera certains ennemis à certains passages et la cinématique de fin. Bon, tout ça ne permet pas de s'impliquer à 100% dans un scénario aussi plan-plan.
Oui.
Et aussi, c'est dingue comment à l'époque on voyait différemment les joueurs PC des joueurs console. Le PC...
On dit que l'histoire est le plus grand des professeurs et que c'est le passé qui définit ce que nous sommes dans le présent et ce que nous deviendrons dans le futur.
La console.
Oh putain, Grognibar !
C'est peut-être finalement cela qui différencie les jeux Dark Alliance et Champions of Norrath de Diablo. Déjà, toutes les trouvailles graphiques et le level design en 3D que la série Blizzard n'implantera que bien plus tard dans Diablo 3, Snowblind et Black Isle l'avaient déjà fait avant, avec une grande ingéniosité. Je suis même intimement persuadé que ça joue énormément à Dark Alliance chez Blizzard quand il s'agit de faire entrer Diablo dans la troisième dimension. De même, lorsqu'on parcourt tous ces jeux, à traverser des plans d'existence farfelus, à la manière d'une partie de jeu de rôle avec le pire des MJ mais ne manquant pas d'enthousiasme, eh bien je trouve que ça rend tous ces jeux extrêmement touchant. Pas de mécanique aussi addictive et un endgame interminable d'un Diablo et autres gacha s'en inspirant. Ce sont des jeux avec une progression amusante et des niveaux variés et qui donnent des sensations de dingue manette en main, surtout à deux joueurs. C'est ce qui m'a marqué quand on a saigné Dark Alliance 2 avec mon pote. On est allé jusqu'au bout du jeu en s'éclatant, alors que Diablo 3 était sorti depuis un an. Et pourtant, on n'a pas retrouvé cette sensation quand on a mis la main sur le jeu de Blizzard. Ingéniosité, innocence, sensation profonde, plutôt pas mal pour ce qu'on a toujours conçu comme de simples Diablo-like pour nos petites PlayStation 2.